Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h30, bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Actuellement, 10 000 classes sont fermées pour cause de Covid en France, soit seulement 2% des classes de primaire. Le nouveau protocole sanitaire a été allégé ce matin avec la fin des tests PCR en cas de Covid dans une classe. On va en parler avec mes invités. Jean-Rémy Girard du syndicat de professeurs SNALC, il sera en direct avec nous. Avec le docteur Gilali Hanan de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Il sera également en direct dans Europe Midi. Et puis on ira à la sortie d'une école à Marseille retrouver Stéphane Burgat. Deux individus arrêtés après les agressions à Noisy-le-Sec. Les victimes, agrippées par des délinquants en voiture, étaient obligées de courir aux côtés de la voiture avant de chuter, évidemment, et de se blesser. Ils s'en sont pris, notamment à un retraité de 67 ans, les informations de William Molinier. L'espoir après la greffe d'un cœur de porc, de cochon, génétiquement modifié. Ce cœur a été greffé sur un homme malade aux États-Unis. On verra en quoi cette technique est prometteuse. Et puis la tendance météo, avec vous Anissa Haddadi, on a droit à une belle amélioration. Hein.
Oui, après les pluies diluviennes de ces deux derniers jours dans le sud-ouest, c'est le soleil qui domine aujourd'hui, un vrai beau soleil d'hiver, dans une ambiance bien rafraîchie et venteuse dans le sud.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète. Le protocole sanitaire à l'école, il a été allégé pour tenter d'éviter le stress dans les familles. Quand un enfant devient cas contact d'un de ses camarades, à partir d'aujourd'hui, plus besoin d'aller faire un test PCR. Les autotests suffisent. Ça enlève une sacrée épine du pied des parents. Est-ce que c'est vraiment le soulagement ? Stéphane Burgat, bonjour Stéphane.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes à la sortie d'une école à Marseille. Qu'est-ce que vous disent les parents ?
Eh bien, écoutez, les réactions sont assez mitigées, on va dire. Pour Jean-Luc, par exemple, c'est le papa de deux jeunes garçons ici. Eh bien, pour lui, ce nouveau protocole, oui, est plus simple, mais il reste trop contraignant.
C'est allégé, mais ça n'est pas encore assez, parce que c'est vrai qu'on sait que les enfants sont porteurs, mais en même temps, ils sont asymptomatiques pour la plupart, on le sait. Ben oui, ça allège un peu le protocole, mais bon, ça nous complique toujours la tâche, quoi. Donc, ça fait quand même trois tests à faire en quatre jours. Ils ne les gardent pas en classe pendant les quatre jours. Bon, voilà, après, nous, on a des vies, on travaille, et c'est compliqué, quoi.
Voilà, les parents rencontrés dans leur majorité nous disent qu'ils appliqueront ce nouveau protocole à la lettre. Mais il y a en même temps un sentiment de ras-le-bol et certains parents s'interrogent déjà.
Oui, ça me gonfle un peu, mais bon, faire trois tests, ben là je vais le faire. Mais bon, si ça perdure, c'est sûr que je pense qu'on va faire un test sur trois. Quoi, voilà. Parce que c'est payant aussi, on mettait de l'argent dans les masques. Maintenant, on met l'argent pour les autotests, c'est très gaspillé.
Les parents qui s'interrogent, surtout ils doutent, combien de temps leurs enfants vont-ils accepter ces tests et pourquoi ne pas plutôt généraliser les tests salivaires qui sont beaucoup moins contraignants.
Merci beaucoup Stéphane Burgat. Merci en direct devant une école à Marseille. On est avec vous Jean-Rémy Girard. Bonjour Jean-Rémy Girard.
Bonjour.
Président du SNALC, syndicat de l'éducation nationale. Les familles sont plutôt soulagées, on l'a entendu, plutôt soulagées, même s'il y a cette dame qui dit qu'elle fera peut-être un test sur les trois. Qu'en pensent les professeurs à présent ?
Nous, il va falloir qu'on nous explique si on veut réellement limiter la circulation du virus à l'école, puisque chaque nouveau protocole est en fait un allègement du protocole précédent. Donc à un moment, nous, on commence à douter de l'objectif poursuivi. Là, on est, et cette dame a parfaitement raison de dire ce qu'elle dit, là, on est quand même dans un système où nous n'avons plus de capacité à vérifier qu'un enfant a réellement fait un test, où tout se jouera uniquement sur une attestation sur l'honneur. Nous, on trouve quand même que c'est compliqué de faire reposer une politique de santé publique sur l'honneur individuel des personnes.
Ça veut dire que vous ne faites pas confiance aux parents ?
C'est pas qu'on fait pas confiance aux parents, si. Mais on pense que les parents peuvent avoir du mal à trouver les fameux autotests qui apparemment seraient gratuits à partir de vendredi.
Ce que vous nous dites, c'est que vous ne faites pas confiance aux parents. Une déclaration sur l'honneur, c'est une déclaration sur l'honneur.
Mais l'honneur, ça vaut pas grand-chose dans notre société. Non, c'est pas aux parents en général, mais on a déjà eu, des collègues nous ont déjà remonté des cas de parents qui ont envoyé des enfants qui avaient des symptômes à l'école, par exemple. Donc vous pensez bien que si des parents envoient des enfants qui ont des symptômes, ils vont peut-être pas forcément faire les tests non plus, de ce point de vue-là. Oui. Mais De toute façon, les parents, les personnels, les enseignants et les autres sont dans le même bain ici. C'est-à-dire qu'on nous change le protocole tous les deux jours, qu'on nous l'annonce à la télé. Nous, on n'a toujours pas les nouvelles règles. Hein. Elles ne sont pas arrivées sur notre messagerie professionnelle. Elles ne sont même pas sur le site du ministère. Et c'est parce que je vous parle sur Europe 1 que je sais, c'est tel jour que tel truc change.
Oui, oui, oui. Si je, alors, quelle serait la solution alors ? Ça serait de fermer les classes au premier cas de Covid comme on faisait avant ? Parce que là, l'objectif du gouvernement, c'est de laisser les classes ouvertes et d'éviter que les enfants perdent des jours de classe, que les élèves perdent des jours de classe.
Mais alors, vous savez, quand il reste 5 élèves dans une classe, il y en a quand même 20 ou 25 qui sont en train de perdre un jour de classe dans ces cas-là. Mais pas forcément fermé au premier cas. Il y a un certain nombre de choses qui, en fait, n'ont pas été faites. Et aujourd'hui, on en paye le prix. On n'a pas investi dans l'école depuis un an et demi. La politique de test, cette politique de test réactif, on l'avait expérimentée à l'Éducation nationale. Le résultat était négatif, hein, ça ne marchait pas. On n'arrivait pas quand le virus circulait beaucoup à tester suffisamment vite les enfants, et c'est ce qu'on est en train de constater aujourd'hui. Le conseil scientifique, hein, depuis septembre dernier, propose des tests itératifs, c'est-à-dire réguliers, tout le monde, qui justement pourraient être des tests salivaires, qui sont beaucoup moins invasifs pour les enfants, notamment les plus jeunes, et qui permettraient en fait de surveiller très régulièrement le virus plutôt que de se retrouver d'un seul coup tout le monde à devoir tester en même temps plusieurs fois de suite.
Bon, c'est pas la solution idéale, on peut l'entendre. Jeudi, il y a une grève des professeurs. Ça veut dire que les élèves, essentiellement dans le public hein, d'ailleurs, auront un jour de classe perdu. On vit en ce moment et depuis 2 ans une crise historique. C'est le moment de faire grève ?
Oui, c'est clairement le moment de faire grève. On est d'accord qu'une journée de classe, c'est important. On le sait puisque c'est nous qui enseignons. Maintenant, là, à un moment, c'est plus possible. On ne peut pas continuer à gérer l'école n'importe comment, du jour au lendemain, annoncer des trucs à la télé. En fait, on ne respecte plus les personnels de l'éducation nationale, sachant que c'est nous, en fait, qui devons nous adapter. C'est pas Jean-Michel Blanquer dans son bureau qui est en train de s'adapter. Hein. C'est nous, sur le terrain, qui devons essayer d'expliquer ce qu'on a compris aux parents. Et la plupart des parents hein, qui nous font des retours soutiennent, hein, d'ailleurs, cette grève. Ils comprennent les difficultés des personnels de l'éducation nationale. À un moment, faut quand même arrêter cette frénésie. Faut poser très clairement l'objectif de départ. Est-ce qu'on veut vraiment limiter la circulation du virus? Si c'est le cas, alors ce n'est pas logique que les cas contacts puissent aller manger à la cantine et n'être récupérés par leurs parents que le soir. Ça n'a aucun sens pour limiter la circulation du virus, une mesure comme ça. Voilà. Il faut qu'on se dise les choses de manière claire. Et il faut surtout qu'on nous laisse le temps de nous organiser quand on fait un changement. Qu'on pose les choses en disant, eh ben, ça commence la semaine prochaine. Ce genre de choses toutes simples.
Merci Jean-Rémy Girard, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Bon après-midi à vous. On est à présent en direct avec le professeur Djilali Annane. Bonjour professeur, chef
Bonjour.
Du service réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine, près de Paris. Ce protocole allégé, donc version 3, effectivement c'est la troisième version en une semaine. Comment est-ce que vous le jugez ?
Bah, écoutez, on va dire qu'on n'a pas de protocole sanitaire à l'école. On n'a pas de stratégie de santé publique à l'école. On le voit, on le constate, puisque on en est, comme vous le dites, au troisième protocole. Et c'est un protocole, d'ailleurs, dont on a un peu de mal à comprendre la logique dans la réalité. Non, de façon très simple, moi je fais partie de ceux qui considéraient que il fallait reculer la rentrée des classes au début janvier. Un choix différent a été fait dans l'optique de maintenir les enfants à l'école et que la scolarisation était quelque chose d'important. Dans l'absolu, en théorie, c'est vrai. Dans la réalité, aujourd'hui, on est dans un espèce de grand bazar, puisque les classes à distance ne sont pas assurées pour les élèves qui doivent rester isolés. Les classes sont complètement déstructurées. Les parents qui devaient pouvoir continuer à travailler, puisque les enfants à l'école, en réalité, sont en permanence à quitter leur travail. Donc on a en fait une désorganisation parce que on a sous-estimé l'impact qu'aurait la circulation du variant Omicron dans la société, en particulier dans les écoles. Aujourd'hui, on est dans une situation où, de toute façon, c'est trop tard. C'est-à-dire, le dépistage massif était très intéressant et très important de façon anticipée, avant qu'on soit dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, le dépistage massif à l'école, ça ne fonctionne pas et ça ne marche pas. Parce qu'il arrive trop tard.
Si je vous suis, il faut en finir avec ce dépistage massif et il faut laisser le virus se diffuser dans les classes, c'est ça ?
Ah ben, c'est-à-dire que malheureusement, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec un peu de chance, on peut l'espérer, on est proche du pic d'Omicron et des contaminations, mais c'est pas la peine de rajouter de la confusion supplémentaire en modifiant tous les jours ou quasiment tous les jours le protocole sanitaire dans les écoles. Il faut assumer jusqu'au bout le fait de vouloir laisser les classes ouvertes, en tirer toutes les conséquences pour l'immédiat, et puis surtout, ce qu'on peut regretter, c'est encore une fois de s'être laissé emmener dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Comme pour l'hôpital, depuis 2 ans, rien n'a été fait pour préparer les écoles aux vagues épidémiques. Les capteurs d'air, le renouvellement de l'air, l'organisation des classes à distance, enfin, tous ces éléments-là dont on avait appris après la première vague qu'ils étaient importants, quand on regarde avec le recul, rien n'a été fait. Et donc aujourd'hui, l'école se retrouve dans la même situation qu'en mars 2020 pour faire face à l'épidémie, enfin à la vague Omicron. Donc on peut regretter ça et en espérant qu'on va construire pour l'avenir, enfin on va envisager qu'il faut une stratégie de santé publique dans les écoles et qu'il faut mettre en place un certain nombre de mesures.
Merci professeur Anand, merci professeur, chef du service réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Très bon après-midi à vous. Avec le nouveau protocole scolaire, va se poser un nouveau problème, trouver des autotests alors que l'approvisionnement est sous tension. Marion Gauthier avec nous, bonjour Marion.
Bonjour.
Est-ce qu'il y aura assez d'autotests pour tout le monde ?
Alors, les pharmaciens sont plutôt confiants, c'est chez eux donc que vous pourrez trouver les autotests gratuits pour vos enfants. 6 millions d'autotests sont en stock, 15 millions en commande. Les arrivées sont irrégulières car le marché, vous l'avez dit, est tendu. En France, 2/3 des pharmacies conservent des stocks tampons, soit une centaine de boîtes en réserve. Mais pour le tiers restant, il pourrait y avoir des micro-pénuries, 1 ou 2 jours à court d'autotests, sans plus, assure Philippe Bessé. Il est président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
Je ne pense pas qu'il y aura des ruptures de stock. La fabrication va vraiment bon train. Nous avons beaucoup d'entreprises françaises qui fabriquent. Je suis confiant sur le fait que nous sommes en capacité d'avoir vraiment des dizaines de millions de doses de tests dans la durée.
Les fabricants, sondés par le ministère de la Santé vendredi, indiquaient que 14,5 millions d'autotests seraient disponibles cette semaine. L'idée, c'est de prioriser la chaîne de santé, me disait ce matin Gilles Bonnefond de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Autrement dit, ramener les tests en pharmacie plutôt que les étaler en grande surface, où ils sont pourtant moins chers. 693 000 boîtes y ont été vendues la semaine dernière pour un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d'euros. Mais la grande distribution n'a l'autorisation de vente que jusqu'à la fin du mois de janvier.
Marion Gauthier, merci Marion. Alors on le voyait, ce protocole sanitaire à l'école, c'est le 3e en une semaine, ça commence à faire beaucoup, il faut suivre. Les 2 premiers protocoles avaient été présentés par Jean-Michel Blanquer, le 3e hier soir l'a été par Jean Castex, Jacques Seret, service politique d'Europe 1. On a le sentiment, Jacques, que le Premier ministre reprend le dossier en main. C'est compliqué pour Jean-Michel Blanquer en ce moment ?
Oui, le ministre de l'Éducation est critiqué jusque dans son propre camp et se retrouve sous pression. La semaine dernière, la publication à la dernière minute par voie de presse du protocole pour les écoles a mis le feu aux poudres avec des parents pris de court la veille de la rentrée. C'est relativement passé inaperçu, mais lors de son entretien aux Parisiens, Emmanuel Macron admettait l'erreur de son ministre devant une enseignante. « Vous avez raison, je vous donne le point, il faut plus d'anticipation », concédait-il. Une semaine plus tard, les protocoles n'ont cessé de changer, d'évoluer. Et c'est Jean Castex qui monte au créneau. Dans la Macronie, certains y voient là un désaveu du Premier ministre pour Jean-Michel Blanquer. Et si Matignon reprend ce dossier, c'est que l'exécutif sent la colère monter chez les Français. Ce week-end, de nombreux députés qui étaient dans leur circonscription ont fait remonter ce qui se passait concrètement sur le terrain. Difficulté de s'approvisionner en autotest, impossibilité de prendre un rendez-vous pour un test PCR près de chez soi dans certains secteurs. Autre indicateur qui est loin de laisser insensibles les stratèges de la Macronie, la grève des enseignants jeudi pour dénoncer, je cite, un protocole sanitaire ingérable s'annonce particulièrement suivi. À 3 mois de la présidentielle, l'exécutif exécutif qui capitalise sur la gestion de la crise n'a aucune envie de perdre des points dans cette dernière ligne droite.
Merci beaucoup Jacques, il est 12h44, restez bien avec nous sur Europe 1. Des piétons traînés par des individus en voiture, ça s'est passé à Noisy-le-Sec. Il y a deux personnes en garde à vue. Que sait-on de ces personnes? On va voir ça avec William Molinier dans un instant. À tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Il est 12h47. Je voulais absolument qu'on revienne dans Europe Midi sur cette agression écœurante, il n'y a pas d'autre mot, de passants à Noisy-le-Sec en banlieue parisienne. Ils ont été obligés de courir car agrippés, alors qu'ils étaient dans la rue, par des agresseurs en voiture. Parmi les victimes, un homme de 67 ans qui s'est évidemment blessé, il était obligé de courir et donc il est tombé, il a déposé plainte. Deux des agresseurs ont été arrêtés, placés en garde à vue. William Molinier du service police-justice d'Europe 1, vous avez des informations, vous avez eu accès au procès verbal de dépôt de plainte.
Oui, cette plainte a été déposée dimanche après-midi. Ali, 67 ans, est un retraité de nationalité algérienne. Quand il pousse les portes du commissariat de Noisy-le-Sec, il est encore contusionné, des blessures aux jambes, aux bras, à la tête. Il raconte aux policiers qu'il est 7h45 ce dimanche quand il se dirige vers le bar à côté de son domicile où il prend régulièrement son café. Une voiture Clio avec 4 occupants se positionne à son niveau. Le conducteur lui demande une cigarette. Ali s'approche de la fenêtre. La suite, il la détaille dans son procès verbal. 2 points, ouvrez les guillemets, le conducteur m'a alors rattrapé la main droite, puis il a ensuite démarré le véhicule, je me suis mise à courir côté gauche, fin de citation. Après avoir parcouru 100 mètres, Ali s'effondre sur la chaussée. Concernant ses agresseurs, 2 d'entre eux sont en garde à vue. Le conducteur est âgé de 24 ans. Le passager, celui qui a filmé la scène, en a 23. Lui, il est déjà connu pour des faits de violence en réunion. Ces individus auraient commis ces mêmes faits à plusieurs reprises. Selon nos informations, une femme a déposé plainte ce matin. Une autre victime est en cours d'identification par les policiers.
12h48. Où en serons-nous de l'épidémie quand il faudra aller voter les 10 et 24 avril prochains pour la présidentielle? Le Premier ministre Jean Castex réunit en ce moment même les chefs des partis politiques représentés au Parlement ainsi que les candidats déclarés à la prochaine élection. L'ordre du jour, l'organisation et le déroulement de la campagne alors que le Covid planera certainement encore au-dessus de la présidentielle. Louis Dragnel avec nous. Louis, cette réunion, elle est en apparence technique, mais en réalité, elle est très politique. Hein.
Absolument. Tous les candidats, et d'ailleurs vous peut-être aussi, vous vous demandez comment va se dérouler l'élection présidentielle. Alors donc, un objectif pour Jean Castex, les rassurer. Donc d'où cette réunion de concertation. Aucune décision ne doit être prise, à part la nomination du conseiller d'État Jean-Denis Combrexelle pour piloter la commission chargée de superviser l'organisation de la campagne. Le Premier ministre est donc en ce moment même en train d'écouter les positions des candidats sur plusieurs sujets, comme les jauges de personnes pour les meetings, l'organisation des débats, l'organisation et la prise en charge des frais de campagne, ou encore, et c'est le sujet polémique du moment, les indispensables 500 parrainages d'élus pour pouvoir se présenter. Ces sujets sont ultra sensibles, car tous les candidats sont conscients que cette campagne sous Covid est particulièrement sauvage, avec des règles qui ne cessent d'évoluer et qui seront sans doute encore mouvantes jusqu'au deuxième tour, le 24 avril. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les candidats sont gênés parce qu'ils savent qu'en étant président sortant, Emmanuel Macron, pas encore déclaré, dispose d'un atout majeur, c'est lui qui décide de tout. Le président aura donc en permanence un temps d'avance sur tous les prétendants à sa succession. Les oppositions entendent donc bien se servir de ce rendez-vous pour demander, voire exiger de l'exécutif d'être informé avant toute nouvelle décision de restriction de liberté par exemple, car les candidats le savent, ces mesures peuvent changer le cours du scrutin.
Merci beaucoup Louis. Les élus, de plus en plus menacés, parfois même agressés, comme le député LREM de Saint-Pierre-et-Miquelon dimanche. Face à la multiplication des cas d'agression d'élus, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, réunit ce soir les ministres de l'Intérieur et de la Justice, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Victor Porcher avec nous. Bonjour Victor.
Bonjour.
Vous avez joint certains de ces élus, qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Eh bien d'abord qu'ils ne peuvent que constater l'augmentation de ces menaces, que ce soit en nombre ou en intensité. Dans l'entourage du ministre Gérald Darmanin, on parle ce matin de 300 plaintes déposées depuis le mois de juillet et de 60 élus menacés rien qu'en 2022. Parmi ces cas, Sabine Van Hegg, sénatrice PS du Pas-de-Calais.
J'ai reçu chez moi mon visage, donc à mon domicile, avec une tête de mort, on n'oubliera pas. ce que vous avez fait, ce que vous avez voté, etc. Maintenant, chez nous, nous sentons menacés et c'est tout à fait insupportable.
Luc Gesmard, député MoDem de Loire-Atlantique, a lui aussi été visé à Noël. Les messages n'ont pas cessé et au-delà de la politique, il reste encore les appréhensions de la famille et du quotidien.
J'ai été quand même choqué. Évidemment, toutes les discussions du réveillon tournaient autour de ces menaces. Cette semaine, j'ai vidé ma boîte aux lettres, j'ai vu un colis. Je me suis posé certaines questions que je ne me posais pas avant pour savoir effectivement si je pouvais considérer ce colis comme étant un colis sûr.
Des députés sous pression, mais tous le disent, il est hors de question pour eux de céder à la peur. Ces menaces n'auront aucune incidence sur leur vote au Parlement.
Victor Pourchet, merci beaucoup Victor pour ces informations et ces témoignages. Restez bien avec nous sur Europe 1, dans Europe Midi. Dans un instant, on va revenir sur cette opération qui suscite énormément d'espoir. La greffe d'un cœur de porc, de cochon, hein, génétiquement modifié sur un homme de 57 ans aux États-Unis. Restez bien avec nous sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h54, imaginons ensemble ce que vit David Bennett, 57 ans. Il est américain, il vit depuis vendredi dernier avec le cœur d'un porc génétiquement modifié qui lui a été greffé. Le cœur d'un porc génétiquement modifié qui lui a été greffé. C'était la seule solution. L'opération a eu lieu à l'école de médecine de l'université du Maryland. C'est à Washington. Ça suscite évidemment énormément d'espoir. Laure d'Autriche avec nous. Bonjour Laure. Ça fait 4 jours que cet homme vit avec le cœur donc de l'animal. La greffe semble avoir pris, hein.
Oui, tout à fait. Et pour que cela fonctionne, l'animal dont provient le cœur greffé a été auparavant génétiquement modifié pour qu'il ne soit pas rejeté par le corps humain. Le cœur porcin a ensuite été conservé dans une machine et parallèlement, l'homme de 57 ans qui a été transplanté devait prendre un nouveau médicament qui permet d'inhiber le système immunitaire et aussi d'empêcher que le corps rejette l'organe. Alors pourquoi les médecins ont-ils choisi un cœur de porc ? Bien parce que le porc est un donneur d'organes idéal en raison de sa taille et de sa croissance rapide. Et puis, il est mieux accepté aussi par le corps humain parce que l'homme consomme déjà du porc dans son alimentation. C'est une avancée chirurgicale majeure qui pourrait aussi être une solution face à la pénurie d'organes, explique l'équipe médicale qui a réalisé l'opération. Aux États-Unis, plus de 100 000 Américains attendent une greffe d'organes et 6 000 personnes qui auraient besoin d'une greffe meurent chaque année. En France, ce sont 24 000 personnes qui attendent une greffe.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. 12h56. Le temps à présent avec vous, Anissa Haddadi. La journée va être plutôt calme et plus agréable qu'hier. Hein.
Oui, alors même si les pluies se sont calmées dans le sud-ouest, hein, il va falloir rester vigilant. De nombreux cours d'eau, et notamment la Garonne en aval de Toulouse, sont en crue. On va surveiller ça de près, évidemment. La bonne nouvelle, c'est tout de même la fin des précipitations et le retour du soleil. Il fait beau cet après-midi. Le soleil brille sur les trois quarts du pays. Petit bémol tout de même sur le nord-ouest, hein, sur les côtes normandes, en Bretagne, sur l'embouchure de la Loire. Là, on a un ciel qui reste gris une grande partie de la journée. Mais partout ailleurs, c'est du beau soleil avec du vent dans le sud. Le retour du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 80 km/h. Les températures, elles ont baissé. Il fait frais cet après-midi avec seulement 2 degrés à Saint-Etienne, 3 à Verdun et Belfort, 5 degrés pour Dijon, Paris, Lille et Lyon, 7 du côté de Boulogne-sur-Mer et Rouen, 9 degrés à Carcassonne et Montauban, 10 degrés pour Angoulême et La Rochelle, 12 à Brest et Bordeaux, 14 degrés à Ajaccio et Toulon et 15 la maximale pour Nice.
Merci beaucoup Anissa. 12h57, restez bien sur Europe 1, dans un instant c'est La France Bouge et nous on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. À demain, belle après-midi sur Europe 1.